et à tous. Je me réjouis de venir partager avec vous ce soir quelques réflexions sur ce qui me semble être devenu aujourd'hui le principal défi que doit relever notre société et les événements un peu dramatiques qui ont secoué la France depuis le début janvier en montrent l'urgence, le défi de l'éducation. Mon propos aura une triple inspiration. Tout d'abord, celle de l'éducateur que je suis, puisque tel est le métier que je pratique depuis 40 ans, et puisqu'il me semble que la spécificité du discours de l'éducateur réside dans l'articulation avec son champ de pratique, permettez-moi deux brefs mots de présentation de cette association Le Val d'Oco, que j'ai fondée en 1995, sur la dalle d'Argenteuil, un quartier un peu emblématique de la banlieue parisienne, association née de la rencontre entre un collectif d'habitants inquiets pour le devenir de leurs enfants dans la réalité d'une cité qui avait été traumatisée par la violence des émeutes urbaines du début des années 90, et des Salésiens de Don Bosco désireux de réexpérimenter le modèle de leur fondateur dans la réalité contemporaine de la banlieue d'aujourd'hui. La difficulté principale de ces enfants et de ces adolescents que je côtoie tous les jours avec mes équipes, réside à mes yeux dans le fait que tous les jours, ils passent par trois lieux. Tous les jours, ils passent du temps en famille, ils passent du temps à l'école, et puis ils passent du temps dans la rue, avec les copains. Et chacun de ces lieux est marqué par une culture un peu différente. La culture familiale, empreinte des traditions, des pays d'origine, je travaille en milieu pluriethnique, pluriculturel, plurireligieux. La culture scolaire, empreinte chez nous des traditions républicaines et que nous dit-on aujourd'hui sur les valeurs de la République. Et puis cette culture de la rue qui est fondamentalement devenue, et j'y reviendrai, une culture de l'entre-père, de l'entre-jeune, les adultes ayant un peu déserté l'espace public. Et nous savons combien l'enfant, l'adolescent peut avoir un comportement un peu différent lorsqu'il se trouve en famille, lorsqu'il se trouve dans son bon classe ou lorsqu'il se trouve au milieu de sa bande avec les copains. Et ce qui est compliqué aussi, c'est que les adultes qui tiennent chacun de ces lieux, les parents, la famille, les enseignants à l'école, les aînés dans la rue, on sait le poids d'influence des aînés sur les plus jeunes, chacune de ces catégories d'adultes a tendance parfois à s'ignorer, voire même à se discréditer. Le discours que j'entends des enseignants sur le thème des parents démissionnaires, si j'arrive pas à faire penser la faute aux parents, ils n'avaient qu'à éduquer leurs enfants. Puis, quand j'écoute les parents, ils me disent « Alors, qu'est-ce que c'est que ces enseignants d'aujourd'hui ? Ils se disent professionnels de l'éducation, ils sont même plus capables d'assurer la discipline. Moi, j'envoie mon gamin à l'école pour qu'il apprenne, il revient, il sait rien. Ça ne sait pas faire son métier, et ça vient nous donner des conseils. » Et puis, vous avez les aînés dans ces quartiers qui viennent vous dire « Tu sais, tu bosses ou tu bosses pas, c'est le chômage au bout. Alors, à quoi ça sert d'être chômeur Bac plus 5 ? J'ai déjà des idées pour le chômeur Bac moins 5 que tu es aujourd'hui. » Tandis, le jeune passe par ces trois lieux, et ceux qui sont porteurs de repères, parce qu'on le veuille ou non, ils sont porteurs de repères, se discréditent les uns des autres. On arrive alors, dans ces quartiers, à une véritable crise de l'éducation. Alors l'idée du Val d'Oco, originale à sa création, largement reprise ensuite dans le cadre du programme de réussite éducative, c'est une même équipe éducative, plurielle dans sa composition. Elle est composée de professionnels et de bénévoles, elle est composée d'éducateurs, d'animateurs, d'enseignants, de psychologues, et qui va à la rencontre de l'enfant et de l'adolescent dans ces trois champs de vie. Nous avons organisé notre activité autour de ces trois pôles, le pôle rue, avec toutes nos animations de rue pour les plus jeunes, la mise en projet des aînés, le pôle école, notre service d'accompagnement éducatif et scolaire, et les initiatives que nous développons dans le cadre de la prévention du décrochage scolaire, qui devient un problème massif dans mon pays, et puis le pôle famille, toutes nos actions dans le registre du soutien à la parentalité, groupe de parole de parents, médiation familiale. L'idée maîtresse du Val d'Oco, c'est ce concept de médiation famille-école-cité, créer du lien entre les différents adultes qui cheminent auprès de l'enfant qui grandit. Comme vous le savez, j'ai beaucoup travaillé sur les questions de violence, et j'ai souvent pu établir une corrélation entre le niveau de violence d'un enfant, d'un adolescent, et le niveau d'incohérence des adultes qui l'accompagne sur son itinéraire de croissance. Il me semble que le premier droit de l'enfant, à l'orée du XXIe siècle, c'est le droit à la cohérence des adultes qui l'accompagnent sur ses chemins d'éducation. Deuxième source d'inspiration, celle du sociologue que je suis aussi, et qui, comme vous le savez, a beaucoup travaillé avec le politique. J'ai toujours eu une activité de terrain, en gros deux tiers de mon temps, puis une activité de conseil. Et j'ai travaillé 10 ans auprès d'un maire, Pierre Cardot, député maire de Chanteloup, 10 ans au cabinet d'un président de conseil général, celui des Yvelines, un peu plus récemment au cabinet du ministre du Logement et de la Ville, toujours sur ces questions de politique à mettre en œuvre pour la jeunesse défavorisée. Et puis, troisième source d'inspiration, eh bien celle de Don Bosco. Alors, il peut paraître étonnant à certains aujourd'hui qu'un éducateur du XXIe siècle se réfère à un pédagogue du XIXe, dont la situation aujourd'hui de l'Europe est un peu différente de celle d'alors. Mais nos deux époques ont en commun de connaître d'importantes mutations sur le plan sociétal. Au temps de Don Bosco, on passait de la société rurale et paysanne à la société urbaine industrielle, et nous passons de cette société industrielle et libérale à cette société qualifiée de post-industrielle et néolibérale. Car vous savez, les politiques nous parlent de crise. Ça fait 40 ans qu'on nous parle de crise. Une crise qui dure, ce n'est pas une crise. Ça s'appelle une mutation. Et je dénonce avec force le discours politique sur la crise, car c'est un discours un peu lénifiant qui laisserait entendre qu'il suffirait de tenir bon pendant les turbulences de la crise et qu'on pourrait rêver d'un après-crise qui ressemble à l'avant-crise. Alors il y a 40 ans, il nous disait « Tenez bon, braves gens, lorsque le cours du pétrole se stabilisera, puisque la crise était due au pétrole, nous disait-on, tout redeviendra comme avant. » Le cours du pétrole s'est stabilisé, il est en train de chuter même aujourd'hui, rien n'est redevenu comme avant. Aujourd'hui, ils nous disent « Tenez bon, braves gens, lorsqu'on aura remboursé la dette, tout redeviendra comme avant. » Je ne suis pas sûr qu'on soit capable de rembourser la dette, au vu de son montant, mais ce dont je suis sûr, c'est que rien ne redeviendra comme avant. J'entends aussi parfois ce discours dans l'Église. « Tenez bon, brave curé, 75 ans, 78 ans, tenez bon pendant la crise. Et puis, tout redeviendra comme avant. Les séminaires à nouveau se rempliront, les ordres religieux recruteront. » Enfin, on ne sait pas trop avec qui. Alors, je dénonce un peu ce discours parce que c'est un discours qui empêche de prendre les véritables réformes qui s'imposent pour adapter l'économie à la réalité d'aujourd'hui, pour adapter notre vie à la réalité d'aujourd'hui. Quand je pense qu'en France, j'entends ce type de discours, nous allons refaire l'école. Une école où les enfants mettront leur blouse, rentreront en classe, se lèveront lorsque le professeur rentrera, puis s'assieront, liront sur le tableau la phrase de morale que Manuel Valls leur aura choisie pour la journée, chanteront ensemble la Marseillaise, puis ils se mettront au travail. Comme si on pouvait au XXIe siècle faire revivre l'école du XIXe. Non, nous le savons tous, nous vivons une mutation, et je ne crois pas à ces retours en arrière de l'histoire. Et chaque fois que la société a traversé une période de mutation, on assiste à la fois à une turbulence de la jeunesse, c'était vrai dans le faubourg de Turin, c'est vrai dans nos quartiers sensibles aujourd'hui, principalement liée à la difficulté de se projeter dans l'avenir. C'est pas évident, autant de Bosco que le petit garçon, fils de paysan, petit-fils de paysan, arrière-petit-fils de paysan, puisse se projeter dans un avenir d'ouvrier, dans une de ces usines fumantes qu'il voyait poindre à l'horizon. Et combien il est difficile pour nos ados d'aujourd'hui de se projeter dans l'avenir lorsque les économistes nous disent que nous ne connaissons que 50% des métiers qui s'exerceront en 2050, qu'ils assistent à l'effondrement de pans entiers de l'économie traditionnelle et que les nouveaux métiers liés à l'économie numérique tardent à se structurer. Et puis, dans un tel contexte, il est plus difficile d'éduquer. Plus difficile d'éduquer, car on éduque toujours aujourd'hui pour demain. Il s'agit de préparer les jeunes, non pas à entrer dans la société d'aujourd'hui, mais dans celle de demain. Et lorsque les contours de la société de demain sont un peu flous, la mission paraît plus difficile. Dans un tel contexte, Jean Bosco était porteur de deux grandes intuitions qui me paraissent tout à fait pertinentes pour notre aujourd'hui. La première, c'est que lorsque la confiance s'estompe dans les grandes institutions, en sortant c'est que les institutions monarchiques, aujourd'hui sont les grandes institutions républicaines, ou d'une monarchie républicaine, Don Bosco de dire la capacité à transmettre, la capacité à éduquer, va beaucoup plus être liée à la qualité de la relation adulte-jeune plutôt qu'à la qualité organisationnelle du système institutionnel. Et il nous laisse un système pédagogique fondé sur la qualité de la relation adulte-jeune. Et après, le siècle des Lumières, qui a eu tendance à tout rationaliser, il réhabilite l'affectif dans la relation éducative. Disant que de toute façon, il y a de l'affectif, mieux vaut le reconnaître pour être capable de le gérer plutôt que de le nier. Vous savez, il me semble que si notre école en France éprouve de telles difficultés face au comportement agressif de certains élèves, c'est que bon nombre de nos enseignants ont été formés à la négation de la dimension affective dans l'exercice de leur profession. Je me trouve à deviner, et les faits me donnaient raison, que l'autorité serait de moins en moins liée au statut de la personne qui l'exerce et de plus en plus à la qualité de relation qu'elle est en capacité de nouer avec le jeune. Aujourd'hui, je vois des parents qui font autorité dans leur famille, d'autres qui ne font plus autorité. Je vois des enseignants qui font autorité dans leur classe, d'autres qui ne font pas autorité. Je vois des juges pour enfants qui font autorité dans leur cabinet, d'autres qui ne font pas autorité. Ce n'est plus le statut qui confère l'autorité, c'est la qualité de relation. Et puis, deuxième intuition de Rosco, c'est de savoir décoder les phénomènes de violence qu'il observait comme symptômes de la faillite de l'accompagnement éducatif. Tous aujourd'hui, nous sommes stupéfaits par la violence des comportements d'enfants, d'adolescents et de jeunes. Mais n'oublions pas que la violence, c'est naturel. La manière naturelle de régler un conflit, c'est la violence. A, en conflit avec B, vous supprimez B, il n'y a plus de conflit. Terroriste en conflit avec Charlie, vous supprimez Charlie, il n'y a plus de conflit. La manière naturelle d'exprimer sa colère, c'est la violence. Si je commence à balancer toutes les chaises dans cette salle, vous allez vous dire, je suis vraiment en colère. Ce qui n'est pas naturel, et qui est le fruit de l'éducation, c'est la convivialité et la paix. La capacité à exercer une relation pacifique avec celui qui est différent de soi, qui ne pense pas comme moi, qui ne prie pas comme moi, qui ne croit pas comme moi. Ça, c'est pas naturel. Ça s'apprend. Autrement dit, pour Don Bosco, le problème de la violence des enfants et des adolescents n'était pas d'abord un problème d'enfants d'adolescents. J'entends aujourd'hui tellement d'instituteurs, d'animateurs, de parents me dire que c'est facile, ils deviennent de plus en plus violents, de plus en plus tôt. J'aime répondre, le bébé du 21e siècle ne naît pas plus violent que le bébé du 20e. Ils naissent tous les deux tout aussi violents, incapables de résister à la moindre frustration. Confieriez un flingue à votre bébé, il vous tuerait pour un biberon en retard. Le problème de la violence des enfants et des adolescents, c'est un problème d'adultes. La question qui se pose à nous tous, c'est comment se fait-il que nous adultes soyons aujourd'hui un peu plus en difficulté que les générations précédentes pour effectuer l'apprentissage de la gestion de la frustration chez l'enfant qui grandit. Combien de faits de violence au Val-de-Caux peuvent s'interpréter comme signifiant l'incapacité de l'adolescent à gérer la frustration posée par un non, posée par une limite. Mais gérer la frustration, c'est pas inné, ça s'apprend. Il revient à l'adulte d'apprendre à l'enfant à maîtriser son agressivité pour qu'elle ne se transforme pas en violence. Combien je vois de cette violence au Val-de-Caux qui peuvent s'interpréter comme l'incapacité pour l'adolescent de gérer ses pulsions agressives. Mais gérer ses pulsions agressives, c'est pas inné, ça s'apprend. Il revient à l'adulte d'apprendre à l'enfant, l'adolescent qui grandit, les autres moyens de résoudre le conflit que le recours à la violence, l'arbitrage, la conciliation, la médiation, la négociation, le recours à la justice. Alors, aux autorités italiennes qui ne cessaient de dire à l'époque de Don Bosco, ces jeunes développent des comportements monstrueux, une seule solution, enfermez-les. Jean Bosco de dire, la violence de ces comportements est le signe de la faillite de notre accompagnement éducatif. Une seule solution, tous ensemble, retroussons les manches et éduquons-les. Et j'aime citer la pointe du discours de Don Bosco lors de son voyage triomphal en France. En 1883, ne tardez pas à vous occuper des jeunes, sinon ils ne vont pas tarder à s'occuper de vous. Pertinence prophétique de ce grand éducateur. Si je dis que le problème principal est celui de l'éducation, je ne dis pas que les parents d'aujourd'hui seraient plus mauvais parents que leurs aînés, que les enseignants d'aujourd'hui seraient moins performants que les anciens, que les éducateurs d'aujourd'hui seraient moins compétents que ceux qui les ont précédés. Mais je dis qu'il est plus difficile d'éduquer dans le contexte d'une société en mutation, qui est le contexte dans lequel nos enfants et nos adolescents grandissent. Alors je voudrais commencer brièvement par m'arrêter sur trois grandes évolutions qui me semblent caractériser la jeunesse d'aujourd'hui et qui rendent un peu plus problématique la mise en œuvre du processus éducatif. Avant, dans un deuxième temps, de voir combien les intuitions de nos Bosco continuent de nous paraître pertinentes pour relever ce défi. Alors je parle sur le contrôle des jeunes, puisque j'en vois quelques-uns parmi nous, et que les premiers spécialistes de l'adolescence, ce sont les adolescents eux-mêmes, qui n'hésitent pas tout à l'heure lors des débats à exprimer tel ou tel désaccord sur la vision qui est mienne. Il est toujours intéressant de croiser des points de vue. Trois grandes évolutions que je perçois. La première, c'est le primat de l'affectif sur l'institutionnel. Reconnaissons que c'est ce qui caractérise l'évolution de la famille moderne depuis les années 60. La famille vivait sur un mode de sa naissance jusqu'aux années 60, et puis ce bouleversement. J'ai fêté récemment les 60 ans de mariage de mes chers parents, qui nous assuraient qu'en 60 ans de mariage, l'affectif, il a des hauts et des bas. Mais lorsque l'affectif était en creux de vague, on se raccrochait à la force du lien institutionnel. Aujourd'hui, au nom de l'authenticité de la relation, de la vérité des sentiments, je ne remets pas en cause ces valeurs dont bon nombre sont évangéliques, lorsque l'affectif est en creux de vague, on va immédiatement à la rupture du lien institutionnel. Le nombre de divorces a explosé, il n'y a plus qu'un enfant sur deux qui aujourd'hui vit chez son père et sa mère, vivant ensemble. Modèle de la famille traditionnelle a complètement explosé et la famille s'est complètement fragilisée. Sentons bien que pendant de longs siècles, il y avait le primat institutionnel sur l'affectif et depuis les années 60, on a ce primat de l'affectif sur l'institutionnel. Ceci a bien sûr des conséquences. Alors on l'a vu, vous savez, dans les débats actuels, on s'aime, bon, on a droit au mariage. Puisqu'on s'aime, on est homme, on est femme, on est homme et femme, on s'aime. Qu'est-ce que ça veut dire, puisqu'on s'aime? Et on voit bien que la manière dont notre société raisonne aujourd'hui place bien ce primat affectif par rapport à l'institutionnel. Ceci a bien sûr des conséquences sur l'éducation de nos enfants et de nos adolescents. Combien je rencontre aujourd'hui de parents qui ont de plus en plus de mal à dire non à leur enfant. Parce que vous le savez tous, je m'adresse aux parents d'adolescents, si vous dites non à un adolescent de 17 ans un soir à 19h, vous vous gâchez toute la soirée. Essayez, vous vous gâchez toute la soirée. Il va revenir à la charge, il va lâchement profiter que vous êtes dans la salle de bain pour trouver votre conjoint et dire, tu sais, maman est d'accord, si toi t'es d'accord, vous allez vous chamailler en couple. Vous lui dites, à quelle heure tu veux rentrer, chérie? La soirée est sauvée. Et combien je rencontre de parents, je ne rejetterai pas la pierre, car il me semble que c'est parfois le signe d'une vie sociale pas assez gratifiante. Combien je rencontre de parents, la vie est tellement dure au travail, dans les transports, que lorsqu'on rentre en famille, ce n'est pas à nouveau pour se coltiner un conflit. Mais nous savons, l'enfant, pour grandir, a besoin de se coltiner, mais non, si on veut l'aider à sortir de son illusion de puissance. Car n'oublions pas que la première relation que le tout petit bébé a avec le monde, c'est une relation de toute puissance. Jure ! Et je vois l'ensemble de la maison qui se met en mouvement et on me sert à boire. Vous avez 25 convives, vous avez un petit couffin, le gamin se met à hurler et il s'aperçoit que tout l'ordre de la maison se bouscule à partir de son cri. I'm the king of the world. Et vous savez que éduquer, ça va être effectivement aider l'enfant à sortir de cette illusion toute puissante. Ils prennent conscience que les autres existent. Et que le monde ne va pas être organisé autour de la satisfaction de ses besoins, mais qu'il va devoir prendre sa place dans une société où les échanges sont organisés par la loi. Toute la place de la loi en éducation. Et combien c'est pas facile, quand on est parent, d'être à la fois témoin d'amour, mais aussi témoin de loi. Et puis, dans ces familles nombreuses, comme il en existait hier, avec 5 gamins et un poste de télé dans la salle à manger, il y avait forcément de la socialisation le mercredi soir. Il y en a un qui a regardé le foot, le deuxième qui a regardé le feuilleton, la troisième le documentaire, et les parents étaient obligés de trancher. Dans ces familles à 2 enfants où chaque gamin a son écran dans sa chambre, il n'y a plus de socialisation du tout. Et nous assistons à une évolution de la famille moderne qui a tendance à utiliser tous les outils du confort moderne de manière à apporter une réponse individualisée aux besoins de chaque membre de la fratrie. Gamin qui choisit son programme de vacances, gamin parfois même qui compose son menu. Alors tout ceci est intéressant en termes d'épanouissement. Globalement, les ados d'aujourd'hui sont sans doute plus épanouis que j'étais à leur âge. Mais ceci a des incidences un peu négatives sur le processus de socialisation. Parce que pour certains, finalement, l'école devient le seul lieu où on oblige une vie de groupe. Alors bien sûr, les tensions sont de plus en plus vives à l'école. Le climat à l'école aujourd'hui n'a rien à voir avec le climat de l'école il y a une cinquantaine d'années. Il y a des enseignants qui se plaignent du comportement de leurs élèves en groupe classe. Je leur dis, plaignez-vous auprès de vos collègues, voulez-vous qu'ils l'apprennent? Faites un sondage dans votre classe de quatrième, demandez lesquels font partie d'une vie de groupe en dehors de la classe. Si un quart des doigts se lèvent, ceux qui ont la chance de participer à un mouvement de jeunesse ou à une équipe sportive, pour les trois quarts d'entre eux, l'école devient le seul lieu où la société impose les règles d'une vie de groupe. Ce primat d'affectif institutionnel va générer également des modifications dans l'exercice de la fonction d'autorité. Je distingue ce concept d'autorité du concept de pouvoir, parce que parfois on les associe. Le pouvoir, je le reçois de l'institution. L'autorité, si j'y réfléchis bien, je la reçois de celles et ceux auprès de qui je l'exerce. On a le pouvoir, on n'a pas l'autorité. On fait ou on ne fait pas autorité. Deux enseignants dans un collège ont même pouvoir, même délégation du chef d'établissement pour assurer la discipline du groupe classe. Ils n'ont pas la même autorité face au groupe classe. L'autorité, on la reçoit. Le père vous dit, tenez le pouvoir de vous parler, alors je cause et vous m'écoutez. Maintenant, est-ce que ma parole fait autorité? Là, il s'agit d'une décision personnelle de chacune et de chacun d'entre vous. Pour certains, il faut autorité, pour d'autres pas. Et il me semble que l'évolution à laquelle nous assistons, là encore depuis les années 60, c'est qu'une position de pouvoir ne confère plus de manière systématique une position d'autorité. Lorsque la confiance régnait dans les institutions, lorsque l'institution conférait du pouvoir à une personne, globalement, cette personne faisait l'autorité. Oh, il y a quelques soucis à la marge. Ce schéma fonctionne de moins en moins. Je connais des juges qui ont un pouvoir énorme, qui peuvent vous mettre en taule sur une simple signature, qui n'ont plus aucune espèce d'autorité face à des mineurs multirécidivistes. Et dans nos quartiers, c'est le problème de la police. Elle a plutôt plus de pouvoir, depuis l'ère sarkozyste et depuis les derniers événements. Le problème, c'est qu'elle ne fait plus autorité. Et lorsque j'observe les relations entre ces bandes de jeunes dans les quartiers et ces brigades anticriminalité, j'ai un peu l'impression d'observer une guerre des bandes, malheur à un flic s'il est pris par 10 jeunes, malheur à un jeune s'il est pris par 10 flics, plutôt qu'un rapport d'autorité d'une institution chargée d'éduquer la citoyenneté, les jeunes qu'elle croit sur le territoire. La deuxième évolution, c'est le primat de la culture de l'entre-père sur l'intergénérationnel. Je parlais tout à l'heure de ces trois lieux. Cette culture de l'entre-père qui régit le monde des copains et qui a tendance à devenir de plus en plus prégnante. Lorsque j'étais moi-même adolescent, il m'arrivait d'inventer des mots pour être compris de mes copains sans être compris des adultes. Mais lorsque je fréquentais les institutions gérées par les adultes, je savais m'allumer sur les collègues. Je commence à découvrir aujourd'hui des ados qui parlent à leurs parents comme ils parlent à leurs copains. Et je rencontre des enseignants qui, chez nous, travaillent en zone d'éducation prioritaire, qui sont les seuls à parler français. Tous les autres parlent banlieue. Non seulement lorsqu'ils s'adressent entre eux, mais même lorsqu'ils s'adressent à l'institution. Cette culture de l'entre-père qui a tendance à envahir l'école, surtout lorsque celle-ci est en plein cœur du quartier. Enfin, chez nous, les politiques s'en aperçoivent. Le caractère dramatique de la carte scolaire. Quand on oblige tous les gamins du quartier à être scolarisés dans la classe du quartier. Effectivement, cette culture de l'entre-père qui envahit l'école. Et puis, cette culture d'entre-père a tendance à marginaliser la famille. Vous savez, ce qui a considérablement changé avec le développement des portables, l'inscription des jeunes dans les réseaux sociaux, c'est que lorsque j'étais moi-même adolescent, lorsque le soir je quittais ma famille, l'école, je veux dire, je quittais l'école pour retourner en famille, je quittais la sphère de mes copains pour m'inscrire dans la sphère familiale. Aujourd'hui, avec leur portable, ils ne quittent jamais l'univers des copains. Ils sont toujours en lien. Je passais un repas dernièrement dans une famille, dimanche dernier, l'ado tweetait entre les plats. T'es où? Tu fais quoi? Ceci modifie considérablement l'ambiance de la famille. C'est-à-dire que cette culture d'entre-père envahit tous les lieux. Et nous savons combien nos ados sont accrochés à leur portable. C'est le lien avec les copains. J'aime dire des fois aux enseignants que confisquer le portable d'un ado de 13 ans, c'est comme lorsque vous confisquez le doudou d'un enfant de 2 ans. Et ça suscite des réactions très violentes. Et je pas le droit. Parce que c'est tout mon réseau qui est là, accroché à moi. J'entendais cette semaine qu'une école organisait un voyage de classe en Finlande. Les enseignants avaient mis comme règle que le portable était interdit. Un quart des adolescents se sont désistés. C'est pas possible. Partir 15 jours sans le portable, c'est pas possible. Donc vous voyez l'importance de cette culture de l'entre-père qui a tendance à envahir tous les champs. Et combien aujourd'hui il est important qu'à l'école et qu'en famille, on se donne les moyens de faire face. Combien j'aime dire que pour moi, un repas familial, c'est tout le monde ferme son portable. Mais adultes et jeunes, car il s'agit d'être cohérent. La source de l'autorité est d'abord liée à la cohérence qui permet à l'adulte d'être crédible. Le fait ce que je dis, mais pas ce que je fais, ça ne marche plus en éducation. Ça a eu marché, comme disait Fernand Rio, à une époque où on ne mettait pas en cause des institutions, où on ne mettait pas en cause des statuts. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Il s'agit toujours, lorsqu'on est en position éducative, qu'on soit parent, qu'on soit enseignant, qu'on soit éducateur, il s'agit toujours de vivre une cohérence entre le dire et le faire. Et la troisième évolution, je parlerai d'un primat de l'instant sur la durée. Des adolescents qui développent des conduites de l'instant, du tout, du dessus, qui savent de moins en moins attendre. Mais là encore, cette évolution de nos enfants, de nos adolescents, est liée à nous, adultes. C'est assez étrange ce qui se passe aujourd'hui dans nos pays. Permettez-moi cette anecdote tirée de mon histoire personnelle. J'avais 9 ans en 1962, ce qui donne une indication sur mon âge pour l'effort en calcul mental. Mes parents avaient connu les affres du débarquement en Normandie, la ruine de leur belle ville de Rouen. Et je puis vous assurer que c'est terrible, à 20 ans, de voir en ruine tout l'héritage familial, tout ce qu'ils avaient construit jusqu'alors. Il ne restait plus rien. Ils avaient chacun une petite valise. C'est tout ce qui restait de tout ce qu'ils avaient pu construire de leur naissance jusqu'à 20 ans. On était en plein blocus de Cuba, menace de guerre nucléaire totale entre les États-Unis d'Amérique et l'Union soviétique. Et le sort du monde s'est joué dans la relation Kennedy-Khrouchtchev lors de la crise des missiles de Cuba. Nous étions en France en plein processus sanglant de décolonisation de l'Algérie, avec des attentats qui avaient lieu une fois tous les 15 ans, des attentats qui avaient lieu tous les jours sur les deux rives de la Méditerranée. Et même notre président de la République, Charles de Gaulle, a failli laisser la vie au petit Clamart. Telle était la situation de la France en 1962. Eh bien, je me souviens. Le gamin que j'étais, le soir en m'endormant, je feuilletais les dernières pages de mon encyclopédie et je rêvais de la voiture de l'an 2000, du robot de l'an 2000 et de la fusée de l'an 2000. Autrement dit, mes parents, qui avaient bien plus de raisons objectives que nous, de s'inquiéter de l'avenir à très court terme, et qui avaient en mémoire des destructions massives de la Seconde Guerre mondiale, étaient néanmoins capables d'enthousiasmer leurs gosses sur demain. Sondage effectué aujourd'hui auprès d'ados de 13-16 ans sur le thème « À quoi vous fait penser demain ?» Les trois premières images associées, la peur de la pollution, le souffrant de la planète, la peur du chômage, la peur du terrorisme. Bonjour, l'envie de grandir. Il est évidemment beaucoup plus difficile d'être jeune dans une société qui se projette négativement sur demain que dans une société qui se projette positivement sur demain. On parle de jeunes difficiles. Non, je ne crois pas. Je crois par contre qu'il est plus difficile d'être jeune à leur époque qu'à la mienne. Et nous commençons à découvrir les effets catastrophiques de ce sempiternel discours d'adulte sur le thème « Hier c'était beau, aujourd'hui c'est difficile, demain c'est la catastrophe ». C'est quoi les conséquences pour nos ados? La première, c'est le développement des conduites du tout tout de suite. Parce que attendre nécessite d'être capable de se projeter dans l'avenir. J'entends beaucoup d'enseignants qui me disent Les jeunes d'aujourd'hui ont perdu le sens de l'effort. Mesdames, messieurs, grande nouvelle, la génération Y aurait perdu le sens de l'effort. Rappelons combien ils nous habitaient. J'aime rappeler que l'effort pour l'effort, ce n'est pas une valeur en soi, c'est plutôt du masochisme. Ce qui est une valeur, c'est l'effort pour atteindre un objectif qu'on s'est fixé. C'est toujours la cible qui donne du sens à l'attention de l'arc. La grande difficulté de nos adolescents, c'est parfois l'incapacité de se fixer des objectifs. Moi, j'ai une admiration sans borne pour les jeunes d'aujourd'hui. M'arrive de rencontrer des jeunes en terminale, qui travaillent 50 heures par semaine, lorsque j'ajoute les cours particuliers, le travail personnel, sur des sujets compliqués. Il faut une partie du programme en terminale scientifique que moi-même faisais en classe préparatoire. Je leur demande « Et qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?»«
Je ne sais pas. »« Je ne sais pas. »
Ça va te servir à quoi tout ce que tu apprends ? Les dérivés, les intégrales ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Travailler 50 heures par semaine, en n'ayant aucune idée de à quoi ça peut servir, faut le faire. Faut le faire. Le problème, c'est que c'est parfois un peu fragile. Ça, un ami, grand directeur dans un ministère, avec un fils très brillant, seconde, première, 16 de moyenne, 17 de moyenne, puis un beau matin de terminale, impossible de le lever de son lit. Ce gamin-là qui, ce matin-là, s'était posé la question du sang. Quoi ça sert tout ça ? Bosser comme un malade, les premiers cas, à quoi ça sert tout ça ? Il n'avait pas réussi à trouver des réponses dans son entourage. Parce que parfois, lorsque j'interroge les enseignants, et je leur demande alors, pourquoi ils font ça ? Ils disent, c'est pour respecter le programme. Je leur dis, chaque fois que je rencontre un chirurgien, puis je lui demande pourquoi il pose le geste, il n'y en a pas un qui me dit « je pose ce geste-là pour respecter la procédure ». Le programme, c'est une procédure. Bien sûr, il faut un programme. Transmettre le savoir nécessite une procédure, l'organiser en année, en chapitre. Mais ce n'est pas ça qui peut faire sens. Peut-être dans la tête de l'enseignant. Allez-y, j'ai fait mon contrat, un programme, mais pas dans la tête des jeunes. On ne peut pas dire « ça fait sens parce que ça permet à l'enseignant de respecter le programme ». Alors c'est le programme de l'enseignant et de son contrat de travail. Et combien aujourd'hui nos adolescents sont en quête d'adultes porteurs de sang. Parce que c'est la deuxième conséquence de ce climat, c'est la montée de la déprime. France et Belgique se partagent un triste record en termes de suicide des jeunes. Une récente étude en France montrait que 11% des jeunes âgés de 15 à 17 ans étaient habités par l'idée du passage à l'acte suicidaire. Chaque fois que j'interviens auprès d'enseignants de lycée, je leur dis, vous faites classe à 30 jeunes aujourd'hui, vous êtes là avec votre histoire, votre géo, vous précisez pour demain, vous précisez pour après-demain, il y en a 3 parmi eux, avec dans la tête comme question, est-ce que je me fous en l'air ce soir ? C'est la question qu'ils ont en tête. Et on a tous les enseignants qui défient, les uns après les autres, et vous me précisez, vous me précisez. Bon, bien effectivement, il est important d'en prendre conscience, de cet état moral catastrophique de notre jeunesse, la jeunesse de France, compte parmi les plus pessimistes du monde. Alors que chaque fois que je voyage à travers le monde, je rencontre des centaines de milliers de jeunes qui rêveraient d'être à la place d'un jeune Français. Rêveraient d'être à la place d'un jeune Belge. Et avec notre discours aussi négatif sur demain, nous fabriquons une jeunesse qui compte parmi les plus pessimistes du monde. Alors, comment, dans ce contexte, relever ce défi de l'éducation. Et j'emprunterai ces 3 pistes que Don Bosco a ouvertes pour nous. Première urgence, il faut rétablir la confiance entre jeunes et adultes. Sans confiance, pas d'éducation possible. Car si je peux fonder le pouvoir sur la menace, je ne peux fonder l'autorité que sur la confiance. C'est toute la différence entre se soumettre et obéir. On se soumet à un pouvoir alors qu'on obéit à une autorité. Obéir, c'est écouter une voix qui a du poids. Mais je ne suis capable d'obéir qu'à quelqu'un qui j'ai confiance. Qui j'ai confiance. Et pour arriver à cette confiance, il me semble important, que l'adulte développe 3 qualités. La première, c'est qu'il doit être crédible. Le jeune ne peut faire confiance qu'à un adulte qu'il juge crédible. On parle beaucoup en France de jeunes qui se désintéressent de la politique. Et pourtant, ils n'ont jamais été aussi nombreux à s'inscrire sur les listes de candidats aux dernières élections municipales. Mais par contre, les hommes politiques ne leur paraissent plus crédibles, avec toutes ces promesses non tenues. Et comme je le disais tout à l'heure, cette crédibilité s'appuie sur la cohérence entre le dire et le faire. Je préfère parler de cohérence plutôt que d'exemplarité. Parce que s'il fallait que les jeunes attendent que tous les adultes soient exemplaires avant qu'ils n'entament leur mission éducative, je crains qu'ils attendent longtemps. Et je vais avoir l'humilité de reconnaître qu'il peut m'arriver, dans ma pratique, d'avoir tel mot, tel geste, un peu en décalage par rapport au principe de la pédagogie salésienne dont je me fais l'échange. Mais à ce moment-là, il s'agira de reconnaître mon erreur. On ne s'aborde pas son autorité en reconnaissant ses erreurs. Les jeunes sont tout à fait capables de comprendre. Par contre, ce qui est important, c'est que lorsque le jeune voit l'erreur, que je sois capable de lui dire « Oui, tu vois, j'étais pas tout à fait à la hauteur. » Mais sache que mon dire, celui que je te transmets, c'est aussi celui que j'essaie de m'appliquer. C'est ainsi qu'on reste cohérent. Tout petit exemple sur la prévention du tabac. Nous avons en France des résultats catastrophiques en termes de consommation de tabac par la jeune génération. Mais combien il m'arrive de voir des enseignants, des éducateurs qui interdisent aux jeunes de fumer et qui sont surpris en train de fumer. Alors ils répondent aux jeunes qui se demandent pourquoi. Ils disent « Moi je suis grand, je suis majeur, je suis adulte, donc j'ai le droit de fumer. Toi t'es mineur, t'es encore petit, t'as pas le droit de fumer. » Ce discours est un discours incitatif au tabac. Ce dont rêve l'adolescent, c'est de vous prouver qu'il est grand. Et voici que vous présentez le tabac comme un critère d'être grand. Alors on a des gamins de sixième qui se mettent à fumer, non pas par plaisir, ils poussent comme des malades, mais ça les pose comme grands. Et d'où est venue cette association d'idées? Mais du discours des adultes, qui n'ont cessé de leur dire « Toi, t'as pas le droit parce que t'es petit, moi j'ai le droit parce que je suis grand. » C'est terrible, ce discours incitatif au tabac. Car si le tabac est mauvais pour les poumons de l'enfant, il est tout aussi mauvais pour les poumons de l'adulte. Ce qui ne veut pas dire qu'un fumeur ne peut pas être un bon éducateur. Mais que lorsqu'il est surpris, le discours cohérent, c'est dire « Tu vois, moi j'aurais aimé que mes éducateurs soient plus vigilants avec moi. Voici que je suis parti sur ce travers, et j'arrive plus à m'en défaire. » Voilà, le jeune n'attend pas de nous que nous soyons parfaits. Ils sont tout à fait capables de comprendre que nous, adultes, nous avons aussi nos failles et nos limites. Mais combien, si l'on veut rester cohérent, c'est effectivement lorsque le comportement du faire est un peu décalé par rapport au dire, le fait de bien montrer aux jeunes que notre dire inspire notre faire. La deuxième exigence, c'est la bienveillance. Le jeune ne peut avoir confiance qu'en quelqu'un dont il sent un regard bienveillant sur sa personne. Jean Bosco parlait d'amour et volé de sang. Et la bienveillance, ça signifie de ne jamais identifier le jeune à ses comportements ou à ses performances de l'instant. C'est un adjectif que j'utilise jamais dans mon vocabulaire d'éducateur spécialisé. C'est l'adjectif délinquant pour qualifier un jeune. Et pourtant, Dieu sait si les ados du Val-d'Oco commettent moult délits. Mais c'est quoi un délinquant? Si je prends la définition du dictionnaire, un jeune est délinquant parce qu'il a commis un délit. Le drame de la tête des gens, c'est que ça vient très vite, un jeune commet des délits parce qu'il est délinquant. On fait des délinquants une espèce de catégorie de jeunes dont la caractéristique serait de produire du délit. Qu'a-t-il de commun entre l'adolescent de 17 ans qui subtilise la carte bleue de sa voisine et l'adolescent de 17 ans qui va agresser sexuellement une gamine de 4 ans? Je ne vois aucun trait de personnalité commun. Bien sûr, ils sont tous les deux délinquants au sens de la loi, ils répondront de leurs actes au tribunal. Mais combien je suis désarçonné lorsque je vois parfois même des collègues écrire des articles sur les jeunes délinquants. Je n'ai pas compris de quoi ils parlaient. Moi, j'ai écrit un bouquin sur les délinquances. Ah oui, ça dit délinquance, il y en a de plusieurs types. Excusez ce trait de vulgarité dans cette église, c'est complètement différent de dire à un enfant « t'as fait une connerie ou t'es con ». On dit pas du tout la même chose. Dans le premier cas, on parle de l'acte, tu fais une belle connerie. Dans le deuxième, on étiquette à partir de l'acte, on stigmatise. Et je disais au directeur d'établissement scolaire que je rencontrais ce matin, C'est la même différence à l'école entre ta copie est nulle et t'es nul. On ne dit pas du tout la même chose. Les enfants qui souffrent le plus à l'école, et j'en connais un certain nombre dans mon bureau d'éducateur, sont les enfants qui ont eu la malchance de rencontrer à l'école des enseignants qui ont confondu le champ de la performance et le champ de la personne. C'est terrible le tort que font ces gens-là. Qui, au lieu de dire ta copie vaut deux, font passer comme message tu vaut deux. Tu vaut deux. Alors là, on installe effectivement l'enfant dans la réparation de l'échec, car il perd confiance en lui. Ben pourquoi ? Je ne suis pas moi contre les notes. Mais une note qui est bien située en termes de performance. Et peut-être faut-il pas les mettre trop tôt. Parce que vous savez, j'imagine un tout jeune garçon. D'accord, qui fait un dessin. Alors il y a un dessin, il dessine un bonhomme. Alors il y en a, il fait une grosse tête, grosse comme ça. Avec un petit corps, puis des petites jambes, des petits bras. Puis un autre, il fait un dessin qui ressemble un peu plus à avec une tête. Et la maîtresse met 18 au dessin qui ressemble et 2 au dessin qui ne ressemble pas. Parce que c'est son critère. C'est son critère. Et en fonction de ses critères, c'est... Mais on pourrait trouver un autre critère. Corrigé par Picasso, c'est peut-être le premier qui vaudrait 20. Parce qu'on peut se dire, gamin a tout compris, tout se passe dans la tête. Et que c'est la tête qui commande le corps, c'est la tête qui commande les membres, et donc on va faire une grosse tête pour montrer à tout le monde qu'il a compris comment fonctionne l'homme. Donc vous voyez, que veut dire la note ? Et le pire, ce serait que ce gamin qui a fait ce dessin nous montre qu'il a tout compris de l'homme, qui se retrouve avec un 2 et qui va penser qu'il vaut 2 en dessin. Par rapport à l'autre, il vaudrait 18 en dessin. Non. Alors je pense que on ne peut mettre des notes qu'à partir du moment où le jeune est en capacité de se dissocier de sa note. De dire j'ai eu 2 en dessin parce que mon dessin vaut 2 selon les critères de beauté de la maîtresse. Mais ça ne veut pas du tout dire que je vaut 2. Distinguer la performance de la personne. J'ai voulu dire ce matin au directeur que dans l'école catholique, on ne devrait jamais parler en termes de bon et de mauvais élève. L'élève, c'est une personne. Comment je peux la qualifier de mauvaise ? Parlons de bonne et de mauvaise copie. Parlons d'apprentissage réussi, d'apprentissage en cours. Mais n'allons jamais parler en termes de bon et de mauvais élèves. Ce n'est pas l'élève qui est mauvais. Ce sont ses performances. Ce sont ses apprentissages. Et puis, troisième exigence, la justice. Ça, je crois que les jeunes sont prêts à nous pardonner beaucoup d'erreurs, sauf sur le terrain de la justice. Et on a bien conscience que, souvent, c'est l'humiliation qui conduit à la violence vengeresse. Lorsque on analyse ce qui se passe aujourd'hui en France, non pas avec l'émotion de l'instant, mais avec le recul de l'histoire, on comprend combien l'humiliation qu'ont pu vivre des jeunes stigmatisés dans leur quartier, dans leur école, peut générer une telle violence. Deuxième piste, le couvre de Moscou. Deuxième défi à relever, il est urgent qu'adultes et jeunes nous fassions alliance. Car, comme le disait Sylvain de Moscou, lors de ses mots du soir, ses petits mots qu'il adressait à ses internes avant le coucher, « Sans vous, je ne puis rien faire. J'ai besoin que nous nous mettions d'accord. Le jeune n'est pas destinataire de l'action éducative. Il est acteur de son éducation. Il est acteur de ses apprentissages. Et combien il est important que nous, adultes, aux côtés du jeune, nous soyons dans cette position d'allié. J'aime ce terme d'alliance qui à la fois conjugue l'amour et la loi. Parce que le mot amour peut être un peu dangereux, surtout dans notre langue française. Parce qu'on dit que les Français sont performants en amour, mais notre langue est très pauvre. On n'a qu'un seul mot pour dire j'aime. J'aime mes enfants, j'aime mon métier, j'aime ma femme, j'aime ma voiture, j'aime mon pays, j'aime mes gosses, j'aime la crème au chocolat. Chez nos amis anglais, entre like et love, il y a quand même des nuances. Et que, caractéristique du message du Christ, c'est pas aimez-vous les uns les autres, parce qu'on peut faire n'importe quoi au nom de l'amour. C'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est ce comme qui est pour nous notre modèle. Et comme disait si bien le cardinal de Courtrai, jamais homme n'a respecté les hommes comme cet homme. Il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Il est venu conjuguer l'amour et la loi. Il n'y a pas d'amour sans loi. Je connais des enfants qui souffrent d'être pas aimés. J'en connais d'autres qui souffrent d'être trop aimés, mais trop mal aimés, dans une relation fusionnelle avec la mère, qui ne leur permet pas d'advenir comme sujet. Et il n'y a pas de loi sans amour. La loi est faite pour l'homme, non pas l'homme pour la loi. L'art d'exercer une fonction d'autorité, quand on est parent, quand on est enseignant, quand on est éducateur, c'est la capacité de faire passer ce message à nos enfants, à nos ados. Je te dis non, parce que je t'aime. J'en ai rien à cirer de toi. J'en ai rien à cirer de ton avenir. Je te laisse à faire n'importe quoi. Si je pose une limite, si je te dis non, c'est parce que tu as du prix à mes yeux. Vivre un rapport d'alliance avec un jeune, c'est conjuguer l'amour et la loi. Ce qui nécessite d'être bien positionné. Vous savez, j'ai souvent observé que les difficultés dans l'exercice de la fonction d'autorité étaient souvent liées à une difficulté de positionnement. Il s'agit d'être toujours suffisamment proche pour ne jamais être indifférent et suffisamment distant pour ne pas être indifférencié. Trouver ce point de bonne distance, bonne proximité avec le jeune. Et ce point n'est pas le même selon les enfants. Des fois, j'entends des parents qui me disent « Je comprends pas, père, j'ai élevé mes 5 enfants pareils. Père, il y a le 3e, alors il déconne, il a plein de tubes. Les 4 autres, ça va bien. » On n'élève jamais ses enfants pareils. On peut avoir les mêmes principes, mais on n'a jamais la même relation. On n'a jamais la même relation avec l'aîné, avec le second, avec le 3e, avec le 4e, avec le 5e. Chaque relation est complètement singulière. Complètement singulière. Et on peut voir effectivement dans des familles, avec 4 adolescents qui tiennent la route, et puis un 5e qui s'égare. Ce point de bonne distance, qui évolue aussi dans le temps. Quand on est maman, on ne peut pas manifester sa tendresse de la même manière à son enfant de 3 ans et à son ado de 15 ans. Je rencontre parfois des mamans qui me disent « Ah, mon ado, il veut plus de ma tendresse. » Non, c'est peut-être que l'ado n'a plus envie des bisous mouillés, surtout quand les copains sont là. Ça ne veut absolument pas dire qu'il n'a pas besoin de votre tendresse, qu'il n'a pas besoin que vous passiez le soir dans sa chambre lorsqu'il est un peu dans la mouise ou dans la déprime. Mais combien effectivement, il va s'agir, au fur et à mesure qu'on grandit, si on veut faire alliance, être capable de toujours trouver ce point de bonne distance, de bonne proximité. Et puis, il s'agit aussi de faire alliance avec les groupes. Les groupes dans lesquels ils vivent, c'est le message que je faisais passer aux enseignants. Comment l'enseignant est appelé à faire alliance avec sa classe pour relever ensemble ce défi d'apprentissage. Et puis, troisième piste ouverte par Don Bosco, c'est il faut être témoin d'espérance. Jean Bosco aimait dire « Le Salésien ne gémit jamais sur son temps. » Nous ne pouvons pas être en position éducative si nous avons un discours de gémissement sur notre temps. Comment aider les jeunes à préparer leur place dans la société de demain si notre discours d'adulte continue d'être du style « Hier c'était beau, aujourd'hui c'est difficile, demain c'est la cata. » Il nous faut être porteurs d'espérance. Et il nous faut porter sur nos enfants, sur nos adolescents, ce double regard qui caractérise le regard de Christ, qui caractérise le regard de Don Bosco. Voir dans l'enfant, dans l'adolescent, l'enfant qu'il est encore et l'adulte qu'il est appelé à devenir. La plus belle parabole qui existe sur l'éducation, c'est la parabole de la graine. Vous savez, la petite graine appelée à devenir un grand arbre. Et il s'agit pour la graine de prendre racine dans l'héritage familial, social, culturel, religieux, de manière à éclore à sa nouveauté de sujet. Lorsqu'on est éducateur, on est porteur de deux missions. La mission de transmettre un héritage et la mission d'accompagner la nouveauté du sujet qui est clos. Et je vous avouerai que, pour ma part, j'aime mon époque. Parce que dans les années 1950, lorsqu'on parlait éducation, on parlait surtout de transmission. Moi, je n'avais pas le droit de parler à la table des adultes. Allez, écoutez. Alors après, il y a eu une crise des années 68. Une espèce de grande illusion, c'était plus la peine de transmettre. Ils allaient tout réinventer par eux-mêmes. J'ai vu dans l'église, au niveau de la catéchèse, c'était même plus la peine de faire de l'histoire sainte. Ils faisaient des petits collages, des petits pétales, des petites fleurs, des items, des petits cœurs. Des fois, je rencontre des gens d'une cinquantaine d'années qui sont interpellés sur leur foi par leurs copains. Et tous leurs souvenirs, c'est des petits cœurs, des petits pétales. Un petit peu en difficulté pour rendre compte de l'espérance qu'ils avaient. Alors que je trouve qu'aujourd'hui, on retrouve un peu en équilibre entre transmettre et puis accompagner la nouveauté du sujet qui grandit. Il s'agit de transmettre non pas pour que les jeunes copient, mais pour que les jeunes inventent. Je disais ce matin, dans ce monde scolaire, que lorsque un enseignant enseigne la littérature, son but n'est pas que les jeunes copient les œuvres des grands auteurs. Son but est que les jeunes apprennent à écrire. Lorsqu'un enseignant de sciences économiques transmet les mécanismes des sciences économiques, son but n'est pas que les jeunes prennent ça pour argent comptant, mais que sur la base de ces mécanismes, ils puissent inventer les mécanismes qui régiront l'économie de demain. Éduquer aujourd'hui pour demain, c'est transmettre, non pas pour que les jeunes copient, mais pour qu'ils inventent. Il en va de même en ce qui concerne la transmission de la foi. Il ne s'agit pas de transmettre notre manière de croire. Il s'agit de transmettre la parole pour que nos enfants soient capables d'élaborer leur manière de croire, qui sera en adéquation avec la nouvelle culture qui marquera leur temps. Il ne s'agit pas de transmettre nos représentations. Il s'agit de transmettre l'essentiel de manière à ce que le jeune construise sa propre représentation. Confiance, alliance, espérance, vous trouverez, et ce sera ma manière de conclure, la trilogie constitutive de la démarche du disciple du Christ, le croire, espérer, aimer. Ce dont les jeunes ont les plus besoin aujourd'hui, c'est d'abord d'adultes qui croient en eux. Il arrive parfois de rencontrer des adolescents suicidaires, non pas qu'ils ne soient pas aimés, ils vivent dans des familles aimantes, et je ne peux rien reprocher à leurs parents. Non pas qu'ils n'aient pas été aidés, ils ont rencontré une kyrielle de psy, une kyrielle de psy. Mais ce qui parfois a manqué, c'est de rencontrer un adulte capable de dire « j'ai besoin de toi ». Ah, des adultes pour proposer leur aide, il y en a des milliers. Mais des adultes capables de dire « j'ai besoin de toi ». Sans toi, la vie ne serait pas ce qu'elle est. Alors ces adolescents commencent à se vivre comme des problèmes. Et parfois arrive l'idée noire dans leur tête qu'en se supprimant, ils suppriment le problème pour leur environnement. J'espère avec toi. Ensemble, nous allons construire ce monde plus juste, plus fraternel. Les hommes et les femmes qui, demain, sauront prendre les grandes décisions permettant de remettre sur rail nos économies, qui, demain, seront capables de réformer nos ordres religieux de manière à ce qu'ils soient en adéquation avec la vie moderne, ces hommes et ces femmes sont aujourd'hui à l'école fondamentale. Quelle responsabilité nous avons ! Ils sont là, présents au milieu de nous. C'est sur eux qu'il nous faut compter. Eux qui vont grandir au milieu de tous ces outils du numérique, qui sauront les utiliser bien mieux que nous, qui sauront bien mieux que nous adapter les décisions au nouveau contexte, ils sont là, dans nos écoles fondamentales. Surtout, ne les désespérons pas d'agir. Et n'allons pas, dans un souci de nous déculpabiliser, présenter la crise comme une fatalité. La crise financière que nous traversons depuis quelques années n'est absolument pas liée à la fatalité. Elle est liée au manque de formation éthique de nos grands cadres financiers. Nous avons fabriqué des grandes écoles du commerce, chez nous HEC, l'ESSEC, avec aucune formation éthique. Nous en subissons les conséquences. Des jeunes pour lesquels on pense que amasser de l'argent peut être la seule finalité de la vie. Mais c'est nous qui avons construit ces écoles. Là, on va présenter aux jeunes cette crise financière selon la fatalité. Et bien sûr, conséquence de nos erreurs. Espérer, c'est effectivement leur permettre de pouvoir exercer leurs responsabilités dans ce monde de demain. Et puis les aimer, comme ils sont, et non pas comme on voudrait qu'ils soient. Et comme le dit si bien Michel Serres, un grand philosophe un peu ancien, dans son petit ouvrage « Petite poussette », c'est vrai que tous ces objets de la nouvelle technologie ne sont pas que des objets. Nos jeunes sont formatés un peu différemment de nous. Je terminerai par cette anecdote. Il y a 40 ans, je comptais parmi les ingénieurs les plus performants de mon pays en informatique. L'ordinateur de l'école polytechnique était le plus gros de France. Il était grand comme cette estrade. Et lorsque on rentrait un programme, il y avait une fiche par information. Nous traversions la cour de récréation avec le paquet de fiches, bouffé par la machine, puis ça sortait du paquet. Et je comptais parmi les ingénieurs les plus performants de mon pays. Comment aurais-je pu imaginer que 30 ans plus tard, je me fasse battre à plate couture par mon petit neveu sur toutes ces conneries de l'informatique ? Quand même un peu posé question. Je me suis dit, est-ce que mon intelligence a chuté brutalement ? Je suis capable de me battre aux échecs ? Alors, sur tous ces jeux-là ? Et puis, j'ai compris en observant que je ne fonctionnais pas comme lui. Moi, quand je suis face à mon clavier, j'ai mon écran, j'ai envie que mon petit bazar se déplace, alors je me dis, bon, pour que le petit bazar se déplace, il faut que j'appuie sur cette touche. Ah non, si j'appuie sur cette touche, il va y avoir un autre effet qui va descendre, c'est pas ce que je veux. Donc, il ne faut pas cette touche-là. C'est cette touche. J'appuie sur la touche et mon bazar se déplace. Pendant ce temps, lui, il a essayé toutes les touches. Et sa méthode est bien plus rapide que la mienne. Alors, quand il m'offre un outil de nouvelle technologie, moi, je mets 2 heures de TGV à lire le mode d'emploi. Lui, il sait s'en servir sans avoir rien vu du tout. Et je me souviens, quand je suis arrivé au ministère, alors j'ai droit à tous les outils de la nouvelle technologie, hein, c'était le BlackBerry, je me retrouvais avec tous ces outils-là, l'ordinateur, le BlackBerry, la table, là. Je me dis, je vais quand même pas aller demander au chef du cabinet le mode d'emploi. Alors j'ai appelé mon petit neveu. J'ai entendu un jour le gendarme rentrer dire, monsieur Picard, votre fils est arrivé, j'ai dit, faites-le monter. Et puis pendant une journée, il m'a expliqué comment ça fonctionnait. Donc, on voit bien. Et bon, ces jeunes, et j'aime dire que le numérique, c'est pas une révolution technologique, c'est une révolution culturelle. Parce que toute culture se définit par un rapport à l'espace et au temps. Et qu'avec ces outils, le rapport à l'espace-temps est complètement modifié. Ils peuvent être en communication avec le copain qui est au bout du monde, et ils peuvent attendre une réponse immédiate. Moi, quand je faisais une déclaration d'amour à une copine, je postais ma lettre et je guettais pendant une semaine le facteur. Eux, c'est en 2 clics. Donc, mais aimons-les. Eux qui évoluent dans ce nouveau monde, aimons-les comme ils sont et non pas comme on voudrait qu'ils soient, c'est-à-dire comme Christ les aime. Et sachons leur dire que nous comptons sur eux pour continuer de faire vivre notre pays. Et notre église. Merci.
Par exemple, si vous avez des contestations par rapport voilà. À l'expertise de Jean-Marie.
Tout à fait. Ce n'est qu'un point de vue qui peut être confronté à bien d'autres.
C'est pas vraiment une question, mais je voudrais vous féliciter de votre optimisme et de toutes les portes que vous nous ouvrez.
Merci, si ça peut être utile, ouais, je m'en réjouis. Je crois qu'il y a une question là-bas aussi. Ça y est.
C'est une question pratico-pratique. Comment faire dans le contexte actuel, quand les parents sont fatigués, que l'enfant est excité, nerveux, qu'il refuse de faire ses devoirs et que le parent part au quart du tour? Ça arrive souvent. Et je dirais, est-ce que, reconnaissant qu'on a un peu pété les plombs, si je puis dire, on s'excuse auprès de l'enfant en lui disant « c'est pas ça que je voulais dire, je m'excuse d'avoir été agressif ou autoritaire de manière impulsive. Est-ce que l'enfant va pouvoir comprendre ça? Est-ce que les dégâts, je me dis, est-ce que le dégât qu'on a fait peut être réparé si on s'excuse et si on considère l'enfant comme une personne et non pas comme quelqu'un que l'on doit faire obéir nécessairement?
Ouais. C'est pas par les coups, mais par la douceur que tu en feras tes amis. Hein, Jean Bosco a été porté toute sa vie par cette intuition qu'il a reçue, nous dit-il, durant un rêve à l'âge de 9 ans. Et combien, effectivement, la douceur, c'est ce qui permet à l'autre de s'apaiser, c'est ce qui permet à l'autre de se révéler comme il est. Alors, bien sûr, nous aussi, nous avons nos limites pour arriver à être en colère. Ce qui me paraît important, c'est, surtout lorsque on est professionnel, de bien maîtriser le langage de manière à ce que nos mots fort désigne des actes et non pas la personne. On a le droit de se mettre en colère contre un acte, contre une connerie qui a été faite. Une chose est de dire avec colère, t'as fait une connerie, enfin c'est pas possible, Autre chose est de dire mais c'est con, c'est pas possible d'avoir un jeune aussi con que cela. C'est-à-dire que tous les mots qui sont des attaques de la personne peuvent toujours générer des blessures. Les mots qui sont des attaques des comportements, le choix n'est plus tout à fait capable d'en saisir le bien fondé. Et ce qui me paraît important, c'est de se dire que ce qui nous met en colère, c'est toujours le comportement. C'est pas l'enfant lui-même, c'est son comportement. Et sachons réagir avec colère sur son comportement. J'aime dire que un jeune difficile, ça n'existe pas ailleurs que nos enfants. Des fois, des éducateurs viennent me trouver en disant « Jean-Marie, c'est pas possible, cet adolescent, il est trop difficile pour nous, on sortira pas, il faut trouver une institution plus adaptée. » Et lorsque je discute avec l'agent d'entretien, qui a un autre type de relation avec ce jeune, parce que je l'avais mis à la peinture, il a fait de la peinture, lui le trouve plus facile. En fait, qu'est-ce qui se passe? Lorsque je me crois bon éducateur, et j'en veux surtout pas aux éducateurs qui travaillent avec moi de se croire bon, parce qu'il le faut pour tenir dans ce difficile métier. Mais lorsque je me crois bon éducateur, lorsque je suis en difficulté relationnelle avec un jeune, j'ai toujours tendance à considérer le jeune comme difficile. Considérer le jeune comme difficile, c'est toujours une manière de sauvegarder mon identité de bon. Moi, j'ai pas de problème relationnel. La relation est difficile. De même, un enseignant qui se croit bon enseignant, alors j'en veux surtout pas aux enseignants de se croire bon, parce qu'il le faut pour tenir dans ce difficile métier qu'est le leur. Mais lorsqu'un enseignant se croit bon enseignant, et qu'il est en difficulté avec un élève, il aura tendance à qualifier l'élève de mauvais. Qualifier l'élève de mauvais, c'est sauvegarder son identité de bon. Puisque moi je suis bon. Et que ça marche pas. Et qu'il meurt. Or, si on réfléchit un peu, ce qui est toujours difficile, c'est la relation. Et la relation, les deux. Les deux. Et je ne vais pouvoir travailler avec mes éducateurs, ou quand je forme des enseignants, que sur cette relation. Mais ayons bien conscience que très souvent, on va appeler difficile la personne avec laquelle on est en difficulté relationnelle. Ce qui me paraît important, c'est d'avoir ce recul-là. Qui n'empêche pas, effectivement, hein, de piquer des colères parfois théâtrales, moral du coup. Mais je m'oblige toujours à utiliser des mots qui qualifient les actes, et non pas les personnes. Toute petite parenthèse évangélique. La première personne à qui Jésus, de son vivant, a dit qu'il le rejoindrait au paradis, et celle qu'on nomme le bon l'âme, c'était certainement un criminel. Parce que pour pouvoir dire, avec ce que j'ai fait, c'est normal que la société me tue, ça veut dire qu'il a tué. Je ne vois pas quelqu'un qui n'aurait pas tué pouvoir dire, avec ce que j'ai fait, c'est normal que la société me tue. Donc, nous avons toutes les chances de penser que ce bon larron, alors c'est vrai, la tradition parle de bon larron, c'est un criminel. Et Jésus lui dit, tu seras avec moi au paradis. C'est-à-dire qu'il ne réduit pas à son acte. Et la tradition lui fait parler du bon larron. Je me souviens du prêche que j'ai fait les 18 points du jour, et je parlais des bons délinquants. Bien sûr, parce qu'ils sont bons, les personnes sont bonnes. C'est l'acte qui est mauvais. Et n'allons pas qualifier la personne à partir de l'acte. Donc, voilà ce que j'ai fait. Alors après, s'excuser, moi je crois que. Il ne faut peut-être pas se tromper tous les jours. Mais moi, ça m'arrive, dans mon bureau, de reprendre un jeune, deux jours après, de dire, écoute, je me suis vraiment planté vis-à-vis de toi, je me suis laissé impressionner, influencé par des rumeurs à ton sujet, par d'autres jeunes qui t'ont dénoncé de manière fausse, et je suis tombé dans le panneau, et puis je m'en suis pris à toi, alors qu'en fait, je découvre que tu es absolument blanc dans cette affaire. Très souvent, le jeune accepte. Il dit, mais c'est pas grave, Jean-Marie. Ben, je dis, si, c'est grave. Parce que... Non. Donc voilà, moi, je crois qu'on peut, comme éducateur, solliciter le pardon. Alors après, l'enfant, ça dépend de quel âge. Hein. Il s'agit aussi qu'il soit sécurisé. Hein. C'est-à-dire que c'est la vie, on ne peut pas se tromper tous les jours, il faut que ce soit exceptionnel. Parce que comment faire confiance à quelqu'un qui se tromperait tous les jours? Ça serait un peu plus compliqué. Mais que je vois parfois des mots tellement blessants. Hein, et qui ont causé tellement de blessures au niveau d'un jeune que s'ils avaient été repris à temps, peut-être la blessure aurait été moins grande. Des jeunes capables de me dire, je reçois au foyer, ils ont 15-16 ans, capables de me dire, de toute façon, quand j'avais 4 ans, ma mère, elle m'a toujours traité de nul. Ma mère, elle m'a toujours traité de nul. 14 ans après, ils ont toujours ça en tête. Et que la maman ait pu reprendre son jeune en disant, mais non, c'est ce que t'es nul, c'est ce que t'as fait, ça c'est vraiment nul, puis je le pense. Et puis je comprends pas, je me suis importé, puis je dis que c'est toi qui t'es nul, mais c'est stupide. C'est ce que t'as fait qui est nul. C'est pas toi, ce que t'as fait. Donc ça, je crois que c'est important. Enfin, moi je vois, des fois, au niveau de jeunes qui vont écouter tel éducateur et être en opposition farouche avec tel autre, hein, très souvent, la différence, c'est que l'éducateur qui le reprend sur ses actes, alors que l'autre le juge sur sa personne, et là il est obligé de sortir son arsenal de défense. Alors que s'il est repris sur l'acte, le jeune, et s'il ne se sent pas en danger, hein, ce qui va pousser un jeune à être dans le déni, c'est parce qu'il pense qu'en reconnaissant l'acte, il perdrait la considération de l'éducateur. S'il est complètement rassuré, que même s'il reconnaît l'acte, il ne perd pas la considération de l'éducateur. Ils sont même capables de vous demander de le sanctionner pour essayer de rétablir à vos yeux sa dignité à partir de l'acte réparé. Attendez, voilà, Xavier arrive, que tout le monde vous entende, parce que là.
Il me semble que je me souviens que dans votre cas, vous voulez aussi que les enfants aient le sens des responsabilités. Ils assument quand même les actes qu'ils posent.
Tout à fait. C'est une erreur de penser que si c'est préventif, veut dire pas de sanction. Mais il s'agit de sanctionner, pas de punir. Parce que c'est la grande différence. On sanctionne un acte alors qu'on punit une personne. La punition est toujours quelque chose d'un peu mignon. La sanction, c'est un outil de responsabilité. La sanction de bonnes études, c'est la réussite d'un examen. La sanction d'une transgression, c'est l'obligation de réparer. La sanction, elle a deux vertus. Elle doit avoir une vertu réparatrice et une vertu rédemptrice. Permettre à l'enfant de réparer les effets de sa transgression et lui permettre de reprendre sa place dans le groupe. Ne pas sanctionner, c'est déresponsabiliser. Et on a vu où ce discours nous a mené, nous en France, lorsqu'on a commencé à parler de délinquance d'exclusion. Ces jeunes, ils volent, ils cassent, ils brûlent les voitures, mais ça cause du chômage, ça cause de l'échec scolaire, ça cause des architectes. Et j'aime dire qu'un discours sociologiquement pertinent, c'est pas la peine de faire de grandes études de sociologie pour se dire que dans tel quartier, il y a beaucoup de chômage, d'exclusion, il y aura beaucoup de délinquance. Ce discours sociologiquement pertinent est désastreux pédagogiquement. Parce qu'il ont toute part de responsabilité aux jeunes dans la pose de l'acte. Discuter avec un gamin qui voulait brûler une voiture, quand je lui demande pourquoi, il dit, tu sais, mon père est en chômage, mon frère est en prison, alors moi je brûle les voitures. Je lui dis, t'arrêtes ton char. T'as la boîte d'allumettes dans une main, t'as l'allumette dans l'autre. Tu choisis, toi, de frotter l'allumette. Tu peux soit le faire, soit ne pas le faire. Et je te rappelle que ton autre frère, que je connais bien, il a le même grand frère que toi qui est en prison, il a le même père que toi qui est au chômage, et j'ai jamais vu brûler une voiture. Ah, ton char ! Allez, donc, mais Jean Bosco nous dit, hein, il conclut son petit traité pédagogique par un mot sur les sanctions. Alors il dit, si possible, courir court jamais, bien sûr, si la prévention est efficace, ça ne va pas bien courir. Mais quand on doit y recourir, ce qui est important, c'est que c'est quand on sanctionne qu'on doit manifester le plus d'affection. Je te sanctionne parce que je veux t'éduquer à la responsabilité. Alors pour qu'une sanction soit éducative, c'est-à-dire que le jeune en voit le sens, hein, j'aime dire qu'il doit répondre à deux critères. Un critère de pertinence, un critère de cohérence. Le critère de pertinence, à mes yeux, c'est qu'il y ait toujours un lien entre le contenu de la sanction et l'effet de la transgression. Un gamin qui casse un carreau, alors peut-être qu'on va lui dire, il faut réparer le carreau, toi tu es trop petit pour le faire, c'est l'agent d'entretien qui va le faire, mais pendant qu'il va le faire, il ne va pas travailler à l'entretien, donc toi tu vas déballer la cour pendant une demi-heure. Ça me paraît pertinent. L'enfant qui bavarde en classe et qu'on envoie balayer la cour, franchement, je ne vois pas le lien. Je dis même que ça participe au discrédit de Romanuel. Le jour où il tombe sur les éboueurs, ils disent quelle connerie ils ont dû faire cela. Le gamin qui n'a pas fait son devoir et qu'on met en retenue, ça me paraît pertinent. On lui offre un espace-temps pour faire son devoir. Le gamin qui a bossé comme un malade, puis il a 5 parce qu'il n'a rien compris, mais tous ceux qui ont moins de 10 sont retenus. Alors qu'il n'y a aucune aide, je ne vois pas où est la pertinence. Donc, ça, c'est la pertinence. Et le critère de cohérence, c'est qu'il y a un lien entre la gravité de la transgression et la gravité de la sanction. Alors, quand on est au calme, comme ça, un soir, tout le monde est d'accord. Mais dans la pratique quotidienne, combien de fois je vois le lien entre la gravité de la sanction et la gravité de l'état de colère de celui qui sanctionne ? Je me souviens comme ça d'un éducateur. Où il y avait un gamin qui avait volé 37 voitures, mais ce n'était pas la sienne. Il y avait un autre gamin qui avait volé sa voiture. Ben, je peux vous dire que la sanction qu'il réclamait pour le gamin qui avait volé sa voiture était bien plus importante que la sanction pour le gamin qui avait volé 37 voitures. Attends, moi je suis directeur, excuse-moi, c'est ta voiture, c'est le secrétaire. Entre dire, la voiture du voisin a autant d'importance que la tienne, je te dis. Alors, ma voiture. Dieu. Et c'est pour ça que le conseil que je donne toujours à mes éducateurs et que je m'applique toujours, c'est toujours de différer l'énoncé du rappel de la loi qui peut se faire avec colère de l'énoncé de la sanction qui doit pouvoir se faire avec douceur. Moi, quand un jeune commet une grave connerie au Val-de-Cou, je suis capable de piquer une colère théâtrale et que ça me donne toi, tu passeras dans mon bureau dans une demi-heure. Mais quand je le reçois dans mon bureau, je le reçois le plus calmement possible. Puis je crois pas que je le sanctionne parce que j'en ai après sa personne. Je le sanctionne pour lui permettre de réparer son acte et de reprendre sa place. Pas la peine d'être en colère pour. Et puis j'ai eu cette demi-heure pour réfléchir au type de sanction. Et il est intéressant que je me calme pour effectivement que ma sanction réponde bien aux deux critères de pertinence et de cohérence. Donc voilà. Donc c'est un art sanctionné. Et ça fait partie de l'art éducatif. Et et combien je trouve que c'est un des enjeux aujourd'hui au niveau de la justice des mineurs dans notre pays, c'est qu'ils puissent réinventer des sanctions pertinentes et cohérentes. Que très souvent on a la prison ou rien. Non.
Bonsoir.
Bonsoir.
Didier Ledan, je travaille ici dans la maison. Alors voilà, nous avons ici à l'Institut Don Bosco 22 élèves en première formation commune, CM2 pour l'équivalent français. Plus on monte dans l'Institut et plus nous avons d'élèves pour arriver à un troisième degré où il y en a, c'est là qu'il y en a le plus. Alors sans nous comparer à ce que vous connaissez en France où vous avez au pied des tours des écoles pour enfants des tours, on pourrait s'inquiéter du fait que la Belgique et le système scolaire belge prennent une orientation un petit peu dans le même genre. Alors, la pédagogie salésienne que nous essayons d'appliquer ici à l'Institut Don Bosco me semble, depuis 25 ans que j'y travaille, être de plus en plus une pédagogie réparatrice pour des jeunes qui ont été abîmés dans un système scolaire qui, extérieur à nous, ne leur correspondait pas, et quand ils viennent chez nous, c'est avec pas mal de blessures et de dégâts. Alors, Don Bosco, vous ne le contrôlerez pas, était un champion de la mixité sociale. Nous avons toute une série de ministres qui ont essayé d'imaginer des décrets à inscription permettant de brasser les élèves au sein des différentes institutions scolaires sans jamais y parvenir. Avec votre expérience, quel conseil pourriez-vous donner à un ministre qui serait chargé d'élaborer une énième réforme permettant de favoriser cette mixité sociale au sein de nos établissements scolaires?
Je connais pas assez la situation, si on veut, au niveau de la situation française. Les choses sont assez simples. Le problème, c'est la carte scolaire, qui était une excellente mesure lorsqu'elle a été adoptée. Lorsqu'on avait le Paris haussmannien. Le Paris haussmannien, c'était les grands immeubles, avec au rez-de-chaussée une famille très aisée, avec les plafonds hauts, deuxième, troisième, quatrième étage, des familles classe moyenne, et sous les toits, les pauvres, la domestique qui travaillait au service de la famille du rez-de-chaussée, logeait sous les toits. Et la carte scolaire, c'était une mesure qui permettait à l'enfant de la domestique d'être scolarisé avec le fils de l'avocat. C'était extraordinaire. Le problème, c'est qu'on a modifié toute notre logique de peuplement. On a fait dégager tous les pauvres des toits pour les envoyer en banlieue. Et à la place, les gens du quatrième ont fait des duplex. C'est devenu ça, les immeubles haussmanniens, ce sont des duplex, des gens du quatrième, et les gens du quatrième sont encore plus aisés que ceux du rez-de-chaussée. Et la carte scolaire est devenue une terrible mesure, obligeant tous les gamins du même quartier à être scolarisés dans l'école du même quartier. Et on oblige les gamins à être scolarisés avec les copains avec lesquels ils cessent de rigoler, et avec ceux qui lui font peur. Et c'est quoi, vous savez, la grande différence entre un collège chez nous de centre-ville et un collège qu'on appelle ZEP, zone d'éducation prioritaire, après toutes les appellations ont changé, hein, RAR, réseau réussite, REP, c'est que dans le collège de centre-ville, il est encore un peu valorisant d'être premier de classe. Dans le collège ZEP, il est dangereux d'être premier de classe. Si vous êtes premier de classe, aussitôt vous avez la réputation de l'intello et du bouffon, et vous devez gérer toute la violence de vos camarades à votre égard. Combien je rencontre dans ces quartiers de gamins prodigieusement intelligents? Je fais une fois l'an une conférence à l'école polytechnique et j'aime dire que la proportion de génie scientifique est la même dans nos quartiers sensibles que dans nos centres-villes. D'ailleurs, qu'on voit tous les scénarios que mettent en place ces jeunes terroristes relèvent d'une grande intelligence, même s'ils font des fois des bêtises. Donc des gamins prodigieusement intelligents, mais qui ont choisi de sacrifier leur scolarité pour sauver leurs amis. Et c'est là qu'on touche l'échec du programme ZEP. C'est un programme fondé il y a 30 ans. 30 ans. Avec comme objectif, en 3 ans, de réduire l'écart entre collège de centre-ville et collège de quartier sensible. Après 30 ans de mise en œuvre, l'écart est plutôt plus grand. Parce que les concepteurs de ce programme ont oublié cette donnée mais fondamentale à l'âge de l'adolescence, où lorsqu'on a 13, 14 ou 15 ans, exister sous le regard des copains passe avant exister sous le regard de l'institution. Et lorsque la réussite scolaire n'est plus investie comme valeur par l'ensemble des copains,